Dieu ne cesse de dire dans le Coran, et il nous invite en permanence à être justes et à appliquer la justice sans parti pris. Il nous dit « Soyez justes, c'est une preuve de piété ». En d'autres termes, l'injuste manque de piété. Et la justice est synonyme de piété. Dieu ne dit-il pas dans le hadith Qudsi, « Ô mes créatures, je me suis interdit l'injustice et je vous interdis d'être injustes les uns envers les autres. » Si quelqu'un a les moyens de s'imposer, c'est Dieu. S'il y a bien quelqu'un qui a les moyens de faire ce qu'il veut, c'est Dieu. Ben, malgré la puissance de Dieu, et bien que nous n'ayons aucun moyen de lui résister, est-ce que Dieu abuse de son pouvoir? Non. Vous savez ce qu'il dit? Je me suis interdit l'injustice et je vous interdis l'injustice. Soyez justes les uns envers les autres. Et Dieu n'a pas de parti pris. Il donnera raison à qui de droit et il condamnera celui qui a tort, fût-il un prophète. Dieu n'a-t-il pas condamné un de ses prophètes lorsqu'il s'est assis sous un arbre et il a été piqué par une fourmi? Sous la colère, qu'est-ce qu'a fait ce prophète? Et il a détruit la fourmilière tout entière. Et Dieu lui a dit, comment? Une fourmi t'a piqué et tu as tué toutes les fourmis? C'est quoi cette injustice? Regardez comment Dieu a repris un de ses prophètes lorsqu'il s'est emporté et qu'il a commis une injustice en punissant des centaines de fourmis innocentes. Personne ne doit porter le fardeau d'autrui. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Il n'y a pas de responsabilité collective. Si quelqu'un commet une faute et une injustice, qu'il soit jugé et condamné, et les autres n'ont pas à porter le chapeau de l'erreur et de la faute, parce qu'ils ne sont pas complices. Et nous ne sommes pas solidaires de quelqu'un qui commet l'injustice, puisque Dieu nous dit « Ne soyez pas injustes les uns envers les autres et condamnez ceux qui sont injustes. » Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Si ma fille Fatima bien-aimée venait à voler, c'est moi-même qui lui couperai la main. » Vous entendez? C'est Fatima, sa fille, qui est une partie de lui, qu'il aimait. Vous entendez? Venait à voler et qu'elle méritait cette sentence coranique, l'amputation de cette main qui a commis cette injustice. C'est moi, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, moi le père, vous entendez, le père qui aime sa fille, qui quoi? Qui ferait appliquer sur elle la justice parce que il doit donner l'exemple et en plus, il doit être juste. Sinon, il trahit quoi? Il trahit son message. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous parle d'un homme qui viendra vers la fin des temps. Et cet homme va réaliser une prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit aux musulmans, vous allez faire la conquête de Constantinople. Constantinople qui était à l'époque la capitale de l'empire chrétien d'Orient. L'empire byzantin. Avant qu'elle ne s'appelle Constantinople, la ville s'appelait Byzance. Et le prophète annonce aux musulmans la prise de Constantinople. C'est très symbolique, c'est-à-dire l'empire romain était divisé en deux. L'un s'appelait l'Empire romain d'Orient, l'autre l'Empire romain d'Occident. Donc vous, musulmans, il viendra un jour où vous dominerez cet Empire romain d'Orient. Et il dit que l'armée qui fera la conquête de cette ville est une bonne armée composée de soldats croyants et pieux. Et le chef de cette armée est un bon musulman croyant et pieux. Il n'a pas donné de date. Il a dit ça arrivera. Quand? Ça dépend plus de moi. Dieu m'a juste dit de vous dire que ça va arriver. Juste après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète eux-mêmes, en l'année 44 de l'Hégire, vont tenter de prendre la ville de Constantinople. Et ils n'y arriveront pas. Il y aura plus de 11 tentatives durant 800 années. Vous entendez? Durant 8 siècles, les musulmans vont essayer à 11 reprises de réaliser la prophétie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut attendre l'année 1453. Il faut attendre le 29 mai. 1453, le mardi, à l'heure d'Al-Fajr. Pourquoi? Pour que le drapeau musulman soit planté sur les murailles de Constantinople et que la ville soit prise par le grand Mohammed ibn Murad, le conquérant, Mehmet, le conquérant. D'ailleurs, il y a un film qui vient d'être réalisé par les Turcs, qui va bientôt sortir au cinéma. C'est un film extraordinaire, il faudra le voir. parce qu'il relate l'histoire justement de la prise de Constantinople. Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a glorifié cet homme, oui ou non ? Il a dit du bien de lui. Et c'est cet homme qui va réaliser le miracle, puisque le prophète annonce la prise de Constantinople. Si ça ne se réalise pas, ça veut dire que le prophète, ce qu'il a dit, c'est faux. Non, tout ce que le prophète dit, c'est vrai. Le prophète ne se trompe pas, parce que ce qu'il dit vient de Dieu, c'est une révélation révélée. Mohammed el-Fatih réalise le miracle. Mohammed el-Fatih, après la prise de Constantinople, décide de construire une mosquée. C'est ce que ont toujours cherché à faire les grands, laisser des traces avant de mourir. Et il désigne un architecte, un maître d'œuvre, qui est chrétien, parce qu'il est compétent, vous entendez ? Et ce qui nous intéresse chez la personne, c'est sa compétence. Et il va lui donner les grandes lignes. Voilà, je voudrais que la mosquée, elle soit comme ça. Bref, il lui donne les grandes idées, l'autre n'a plus qu'à les mettre en pratique. Et parmi les choses qu'il a demandé à cet architecte, c'est quoi ? C'est des pylônes, hein, qui doivent faire, admettons, 6 mètres de haut, de marbre, des colonnes de marbre. Hein, la mosquée doit reposer le toit sur des colonnes de marbre. Et ce n'est pas évident, parce qu'il faut aller les chercher dans des régions très éloignées. Il faut des années de travail pour tailler dans la pierre, hein, des colonnes de marbre. Bref, les colonnes de marbre arrivent et notre architecte a une idée qui lui passe par la tête, qui est de réduire la hauteur des colonnes. Il estime qu'elles sont trop hautes et que c'est pas bon. Et de lui-même, il prend la décision de les réduire. Et il les a réduites effectivement. Par la suite, Mohammed el-Fatih décide d'aller jeter un coup d'œil sur le chantier. Et qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que les colonnes ne font pas la hauteur qu'il avait décidée, mais qu'elles ont été réduite par notre architecte. Sous l'effet de la colère, il est pris par la colère, vous savez ce qu'il fait ? Il condamne l'architecte chrétien à l'amputation. Ta main qui a coupé ces colonnes va être coupée. Et effectivement, le pauvre architecte va se retrouver avec une main en moins. Les semaines passent, les mois passent, lorsqu'il a recouvré sa santé, tout de suite il est parti porter plainte au tribunal central d'Istanbul. Chez le grand juge, le grand magistrat, Zenbeli Afandi. Il porte plainte contre qui ? Il porte plainte contre le calife, le sultan, l'empereur. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est l'homme le plus puissant de l'époque. Vous entendez ? C'est lui qui va réussir à quoi ? Pour la première fois dans l'histoire de l'islam, et la dernière, ça n'existera plus, à toucher un tribut de qui ? Du pape de Rome. Le Saint-Siège, la papauté à Rome, à un moment donné, versait un impôt à qui ? À Mohammed el-Fatih, en reconnaissance de sa grandeur et de sa puissance, et pour éviter les hostilités militaires. Vous entendez, hein ? C'est jamais arrivé, et ça n'arrivera plus. Mohammed el-Fatih, l'homme le plus puissant à l'époque. Mohammed el-Fatih, l'homme le plus respecté et le plus craint. Mohammed el-Fatih qui a réalisé le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prise de Constantinople. Mohammed el-Fatih, dont le prophète dit « Falani amadalik al-amiru »« Amiruha » C'est un chef extraordinaire, magnifique, super, commet une erreur et une faute, sous la colère. Il a quoi ? Il a ordonné l'amputation de la main de cet architecte, qui certes a fauté, puisqu'il n'a pas respecté les ordres, les consignes, mais la punition dépasse de loin la faute. Et regardez, malgré tout ça, un citoyen lambda, hein, de surcroît chrétien qui vit dans le monde musulman, a le droit de quoi ? De porter plainte contre son président. Et le juge va convoquer Mohammed el-Fatih. Arrivé au tribunal, Mohammed el-Fatih s'assied. Le juge lui dit « Mets-toi debout. Tu dois rester debout comme celui qui se plaint de toi. Vous devez être sur le même pied d'égalité. C'est parce que tu es le sultan que tu dois être privilégié. Debout, et tu attends qu'il s'exprime. » L'architecte va s'exprimer, il va se plaindre. Mohammed el-Fatih va écouter avec la deuxième oreille, le magistrat, le qadi, va écouter avec son oreille gauche ce que Mohammed el-Fatih dit, et Mohammed el-Fatih reconnaît la faute. Il dit « Je me suis emporté, c'est vrai, j'aurais pas dû. » Mais bon, ce qui est fait est fait. Et là, le juge, après réflexion, c'est ce qu'il dit. Je vous condamne à quoi ? À l'amputation. Vous lui avez coupé la main, votre main sera coupée. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Tu as beau être celui dont le prophète a parlé et a dit du bien, voilà qu'en tu seras soumis à la loi musulmane comme tout le monde, même si ta victime est un citoyen chrétien. Eh oui, que ta main soit coupée. C'est ça le jugement. Si ça, ce n'est pas de la justice, si ça, ce n'est pas de l'islam, vous savez ce que va faire l'architecte ? Il va verser des larmes de joie et d'étonnement. Il ne s'imaginait pas que ça allait terminer comme ça. Et il va dire au juge, si vous lui coupez la main, ça ne me rendra pas ma main. Alors je préfère une compensation financière. Je préfère qu'il me donne de l'argent pour vivre que de lui retirer la main. Et le juge va condamner Mohammed al-Fatih, l'empereur musulman, à lui verser tous les mois une indemnité. Et vous savez ce que va faire Mohammed al-Fatih ? Il va doubler l'indemnité en disant « Je lui donne deux fois plus que ce que vous avez décidé, monsieur le juge, parce qu'il m'a pardonné et il me laisse repartir avec mes deux mains. » Et l'histoire s'arrête ici. Tout ça pour vous dire que la justice est le pilier par excellence de notre religion. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'islam. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas possibilité de vivre sur terre. Hein? Parce que les êtres humains normalement constitués n'acceptent pas les injustices. Même l'animal n'accepte pas l'injustice. La hogra, c'est quelque chose d'insupportable. Et celui qui ne subit une injustice, tôt ou tard, il se révoltera. Même si ça dure 20 ans, 30, 40 ans. Et vous êtes tous d'accord que là, en tant que communauté musulmane française, nous sommes en train de subir une injustice aujourd'hui. Hein ? Il y a des gens qui nous haggarent. Il y a des gens qui veulent nous couper la main. Il y a des gens qui veulent nous couper la langue. Non, il y a des gens qui veulent nous couper la tête, tout simplement. Ce matin, là, comment elle s'appelle la meuf, la Marine ? Ouais. Elle appelle quoi ? Elle appelle l'État à dissoudre une association qui s'appelle l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui a 30 ans, 35 ans d'existence, qui a fait et qui continue à faire un travail extraordinaire en France de quoi ? D'enseignement de l'islam, de propagation de l'islam, vous entendez ? D'éducation pour éduquer la communauté musulmane, de construction de mosquées, de centres islamiques, d'universités islamiques pour que les musulmans puissent pratiquer leur religion, vivre en France tout en étant des citoyens musulmans. Donc l'UEF ne fait que appliquer la loi française, ne fait que respecter la constitution française dans laquelle il est dit que tout le monde est libre d'avoir sa religion et tout le monde a le droit de pratiquer sa religion. Et l'État français doit donner à ses citoyens les moyens pour pouvoir pratiquer leur religion. Et voilà que Madame Le Pen se réveille un vendredi matin et elle décide quoi ? Elle décide de remettre en question les bases de notre société. Et pourquoi est-ce qu'elle se permet de faire ça ? Est-ce parce qu'elle a de la haine envers les musulmans et l'islam ? Sans doute. Mais la raison la plus sûre, vous savez, c'est laquelle ? C'est qu'elle veut gagner des voix. Vous entendez ? Et aujourd'hui, si vous voulez être élu, n'apportez pas des solutions aux 4 millions de chômeurs. N'apportez pas des solutions au gasoil et à l'essence, qui ne cessent d'augmenter, au gaz, à l'électricité, problème de logement, problème d'insécurité, problème climatique. N'apportez pas de solutions, parce qu'il faut quand même réfléchir, il faut avoir un peu de matière grise. C'est ce qui manque à, malheureusement, certains hommes politiques et à cette femme de surcroît. Vous savez ce qu'il faut faire ? C'est simple. Ouais. Vomissez sur les musulmans. Sortez tous les matins une affaire. Quand ce n'est pas le halal, c'est le foulard. Quand ce n'est pas le foulard, c'est des gens qui prient dehors parce qu'ils n'ont pas de place. Bref, vous trouverez toujours des poux dans les cheveux des musulmans. Et faites-en une affaire nationale. Non, 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 une affaire internationale. C'est le monde qui est en danger. Vous entendez ? Non, c'est l'univers qui est en danger. Parce qu'il y a des musulmans en France qui veulent pratiquer leur religion. Et vous êtes sûr et certain que vous allez faire un bon score. Pourquoi ? Parce que, on l'a expliqué la dernière fois, faites peur aux gens, faites-leur peur. Et ensuite, dites-leur, je suis votre refuge. Ouais. Vous avez peur, venez chez moi, je vais vous protéger. Ben, ils vont tous venir chez vous parce qu'ils ont peur. Ben, c'est exactement ce que fait Mme Le Pen et d'autres. Ils veulent faire peur à la majorité des Français en leur disant, il y a un danger qui s'appelle l'islam et les musulmans. La solution contre... Et ils leur ont fait peur, vous entendez ? Vous avez vu le matraquage médiatique là pendant 3, 4... Ça continue une semaine. Il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi flipper. Mettez-vous à la place de celui qui... Le mec, toutes ces infos, c'est le 20h et je ne sais quelle radio. Le mec qui voit et qui entend sans, qui n'a pas de recul, il y a de quoi avoir peur. Et c'est pas compliqué de faire peur aux gens. Vous entendez ? Donc, faites des dua pour que le temps passe vite, pour que la présidentielle se termine, les législatives se terminent, pour qu'on se repose un peu. Ouais. Donc, jusque juin, vous allez prendre des coups. Après juin, ça va se calmer. Non, tu es trop optimiste. Je crois que la machine est lancée. Non ? Imaginez-vous, après juin, ça continue. Là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Là, ça devient grave. Encore maintenant, allez, ça s'explique, on va laisser passer. Ils veulent des sièges à l'Assemblée nationale, ils veulent être président. Allez, vas-y, vomis sur moi, j'ai le dos large. Non, c'est pas que j'ai le dos large, c'est que j'ai pas le choix. Ok ? Je peux rien faire, si ce n'est que pleurnicher, point final. Mais imaginez-vous, juillet, août, septembre, ça continue. Là, ça n'a plus rien à voir avec les élections, ça n'a plus rien à voir avec la démagogie électoraliste. Là, ça devient vraiment quelque chose de profond. Et là, moi je vous dis, il faudra avoir peur à ce moment-là. Parce que c'est pas bon. C'est vraiment un mauvais présage. Répandre la haine dans la société, lever des groupes contre des groupes, ça va mal finir, des deux côtés. On aura parmi nous des gens qui n'auront pas assez de recul, assez d'intelligence et qui vont tomber dans le piège. Et il y aura parmi nos concitoyens non musulmans des gens qui vont mordre à l'hameçon et qui seront haineux. Et il y aura des ratonnades islamistes dans les rues. Et je ne sais quelle autre exaction il va y avoir. C'est quoi la solution ? On fait une pause et on l'évoque, Inch'Allah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors c'est quoi la solution ? Ben il faut déjà être juste et rester juste. On est d'accord ? Hein, il ne faut pas se laisser emporter par la colère, par la haine, si bien que nous allons porter des jugements qui vont tomber dans la généralisation. Ouais. Si on vous a rien dit, on vous a rien fait, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne est innocente. Hein, ne tombez pas dans l'exagération, ne faites pas comme ce que vous reprochez à vos ennemis, à vos détracteurs. Ok ? Donc, on ne généralise pas, on juge les gens au cas par cas en fonction de ce qu'ils disent et en fonction de ce qu'ils font. Et on ne fait pas de procès d'intention. Ouais, on n'entre pas dans la tête des gens pour voir est-ce qu'ils nous aiment, est-ce qu'ils nous détestent. Tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Sinon, vous allez devenir parano. Ouais. Vous allez voir des extraterrestres partout qui veulent votre peau. Deuxièmement, Dieu le dit dans le Coran, « لَتَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » Vous allez entendre quoi ? De leur bouche. « أَذَنْ كَثِيرًا » Ils vont vous faire du mal avec leur médias. Ils vont vous faire du mal avec la télé, avec la radio. La tasma'un, vous allez entendre de leur bouche des propos, des paroles, des jugements blessants. Et combien ? Kathiran, beaucoup. Ouais. C'est pas un petit peu, c'est pas de temps en temps. C'est beaucoup et ça va être récurrent, ça va revenir souvent. C'est quoi la solution, Seigneur ? C'est dans le verset, la suite. Wa in tasbiru wa tattaqu. Voilà, c'est pas moi qui ai donné la solution, je suis désolé. Si vous patientez et si vous craignez Dieu, vous allez vous en sortir. Donc ça veut dire quoi la patience ? Ça veut dire aucune réaction non contrôlée aucune réaction due à la haine, à la colère. Ça, c'est le piège, vous allez dans le mur. On est d'accord. On analyse avec du recul, on pense, on réfléchit. À titre personnel, et puis au niveau des organisations, ils pensent et ils réfléchissent. On est d'accord. Deuxièmement, il faut savoir encaisser des coups. Eh oui, il faut savoir se prendre des coups, pas parce qu'on est maso, on les aime, mais parce que on n'a pas les moyens de quoi de les stopper, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a une chaîne de télévision pour répondre? Non. Est-ce qu'on a une radio? Non. Est-ce que nous avons des hommes politiques pour nous défendre? On ne les a pas. On n'a pas d'amis chez les politiciens, on n'a pas d'amis chez les journalistes, on n'a pas d'amis chez les intellectuels. Tout le monde nous tire dessus parce que s'ils ne nous tirent pas dessus, on va leur tirer dessus. Vous vous souvenez, la minorité, la majorité et la minorité de la majorité. OK ? Donc, nous n'avons pas de réseau. Nous n'avons pas créé des relations dans la société pour trouver des Abu Talib qui vont nous défendre. C'est ça ? C'est pour ça, vous savez, quand on vous appelle à des activités, comme par exemple, dialogue islamo-chrétien, il y a une réunion, tel homme politique va s'exprimer. Quand on vous dit, il faut y aller pour écouter les gens, pour échanger avec eux, pour sympathiser avec eux, pour qu'ils vous découvrent sous votre vrai visage, ben les musulmans ne veulent pas y aller, parce que ça ne sert à rien, Galolek. Et alors, si j'y vais, et après ? Ben c'est simple, restez seul, enfermé dans votre petite communauté ou dans votre maison, et vous allez voir, le jour où le méchant loup va venir pour vous manger, vous ne trouverez personne pour pleurer sur votre sort, vous ne trouverez personne pour vous sauver, vous aider. C'est normal. Tu n'as jamais créé de relation avec quiconque. Tu n'existes pas. Vous entendez ? Tu n'existes pas. Nous sommes absents. Nous vivons dans une société en périphérie. On a de contact avec les personnes dans cette société que quand on a un intérêt personnel et individuel. Et ça, c'est une catastrophe. Comment voulez-vous que les politiques ne vomissent pas sur nous alors qu'on n'a aucun moyen de pression sur eux ? Et vous savez tous que le moyen de pression le plus efficace sur un homme politique, c'est quoi ? C'est d'appuyer sur un bouton et l'éjecter de son siège. Et ce bouton, c'est quoi ? C'est votre carte électorale. C'est le vote le dimanche. Si les musulmans n'ont pas compris qu'ils doivent avoir un poids politique dans cette société, les politiques qui font la pluie et le beau temps, vous entendez, qui font les lois et qui les défont, ne tiendront pas compte de leur quoi, de leur goût, de leur couleur, de leurs envies, etc. C'est le bon sens, c'est la logique. Vous n'avez pas d'autre solution. Et arrêtez de dire « ça ne sert à rien ». Vous êtes toujours dans le pessimisme. À chaque fois qu'on apporte des solutions à cette communauté, oui, mais, oui, mais. Tu n'es plus en posture de dire « oui, mais ». Tu es en posture, tu as intérêt de bouger, de réagir, puisque tu n'as pas réfléchi comment agir et réagir. Laisse, écoute ceux qui pensent et qui réfléchissent et qui te disent que nous sommes dans une société démocratique. Vous savez c'est quoi la démocratie ? C'est-à-dire le peuple a le pouvoir. Vous allez me dire, c'est pas vrai, c'est pas le peuple qui a le pouvoir. Je vous dis, vous avez tort. C'est vrai qu'il y a des lobbies, vous entendez ? Et des lobbies qui font pression sur les hommes politiques. Ces lobbies-là ne viennent pas du ciel, ils viennent du peuple. Vous êtes le peuple. Pourquoi est-ce que vous ne devenez pas une force pour justement faire pression sur ceux qui dirigent ce pays, comme les autres font pression sur ceux qui dirigent le pays ? Quand ils ont commencé à toucher au halal, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a réagi, qui a arrêté la polémique sur le halal ? Ceux qui mangent du kasher, oui ou non ? Ils sont partis direct voir le ministre, le premier et le deuxième ministre de l'Intérieur et le premier ministre. Et ils lui ont dit, tu touches pas au halal pour deux raisons. Parce que si tu touches au halal, tu vas toucher au kasher, puisque c'est la même chose. Le musulman saigne la bête, le juif saigne la bête. Deuxièmement, le halal, c'est nous qui le gérons. Isla Delis, Rega Delis, truc machin, toutes les grandes sociétés qui font du halal sont des sociétés tenues par des hommes d'affaires qui sont pas musulmans, qui sont juifs. C'est leur droit, au moins ils sont intelligents, ils savent faire du business. Et l'affaire du halal s'est arrêtée là, vrai ou faux ? Calme, on nous... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore compris comment ça fonctionne ? Le musulman, quand il a pris la parole pour défendre le halal, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, on va voir avec nos savants musulmans pour essayer de trouver une solution au halal, parce qu'il doit sans doute y avoir des avis. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus de problème avec le halal. Regardez la posture. Les uns viennent et tapent sur la table et disent, tu touches pas au kasher et au halal. Pas parce qu'ils aiment le halal, c'est parce que le halal est un bouclier et pour éviter de toucher au kasher. Et le musulman, il vient, il fait recours et soujoud. Et il dit quoi? Il dit, n'ayez pas peur, on va essayer de régler le problème et faire disparaître le halal en sortant une fatwa qui va dire, vous pouvez manger ce qui n'est pas halal. Regardez la posture des uns et des autres. Nous sommes tout seuls. Il n'y a besoin de personne pour être en bas. Tout seul, on se laisse taper dessus. Wallah al-Adim, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de combattre les musulmans tout seuls, ils se détruisent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se prendre en charge. Ils attendent je ne sais qui pour venir résoudre leurs problèmes. Chacun d'entre nous est responsable de l'avenir de l'islam, de la communauté musulmane de France. Chacun. Il faut juste assumer sa responsabilité. En étant juste, en étant de bons citoyens, vous entendez? Il ne faut pas tomber dans les égarements, faut pas tomber dans les injustices. Vous restez accroché à votre religion. Ne la troquez pas. Hein? Ne vendez pas votre âme au diable. Restez musulman et fier d'être musulman. Et quand je dis musulman, c'est des musulmans posés, intelligents, qui ont compris le sens de cette religion. Quatrièmement, prenez votre place dans la société, au niveau économique, au niveau politique, au niveau intellectuel, au niveau tout simplement relationnel, en tissant des relations avec le maximum de personnes pour que les gens nous découvrent sous notre vrai visage. Et là, vous savez ce qui va se passer? Ils vont nous apprécier parce que nous ne sommes pas des monstres. Au contraire, nous voulons le bien pour l'humanité tout entière. Vous entendez? On veut le bien. Brinal khir l'nas. Ouais. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites le bien à tout le monde et faites le bien à tout le monde. On ne veut pas le mal. S'il y a 2, 3, 10 musulmans fêlés du cerveau qui ont la haine de la France et des Français non musulmans et qui veulent le mal de la France et des Français non musulmans, ils ne nous représentent pas et ils ont tort et il faut nous les ramener pour qu'on les soigne parce qu'ils n'ont pas compris cette religion. Ce n'est pas une religion de haine qui souhaite envoyer les gens en enfer. Nous voulons sortir les gens de l'enfer sur terre et de l'enfer de l'au-delà. Voilà qu'il faut y croire, vous entendez, il faut y croire, il faut être optimiste, il ne faut pas être pessimiste. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. Et il faut de l'intelligence, il faut de la patience intelligente et il nous faut une bonne compréhension et pratique de la religion et des efforts. Et vous allez voir que demain ça ira mieux, la tempête va passer, il y en a d'autres qui nous attendent, peut-être même des ouragans et des tsunamis. Le coup qui ne nous tue pas doit nous renforcer, mais à condition de tirer des leçons de tout ce qui se passe. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.